podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Dossiers de Frontières des Séries. Après les succès de Pigalle la Nuit sur Canal+ et de Signature sur France Télévisions, cette dernière a décidé de refaire confiance au duo Hervé Admar et Marc Herpoux pour Les Témoins, leur nouvelle mini-série en 6 épisodes. Cette production policière franco-belge qui a été diffusée à l'automne 2014 sur la RTBF et au printemps 2015 sur France 2 et mettant en scène notamment Thierry Lhermitte, propose un scénario des plus intrigants dont l'introduction ne manque pas d'audace. Dans le nord de la France, dans la région du Tréport, d'étranges faits viennent secouer les habitants de la région. Des tombes se voient profanées et les morts ainsi déterrés sont placés dans des maisons témoins. Dans ce décorum aseptisé, le même rituel semble se répéter. Les cadavres d'un homme, d'une femme et d'une adolescente, sans lien de parenté apparent, se voient ainsi mis en scène dans ce qui ressemble à un simulacre de scène familiale quotidienne. Sandra Vinclair, jeune flic, se voit chargée de l'enquête et découvre dans l'une des maisons témoins les photos de Paul Maisonneuve, ex-commissaire légendaire de la PJ de Lille, qu'elle a pu côtoyer durant ses années d'école de police. Prévenu de la situation, ce policier énigmatique et vieillissant est par ailleurs victime d'une tentative de meurtre ou du moins d'intimidation. Le mystère s'épaissit donc et il deviendra urgent pour Sandra de découvrir qui sont les auteurs de ces étranges méfaits et quel est le lien qui unit Paul Maisonneuve à cette affaire criminelle. Pour nous en parler aujourd'hui, Tilman Villette, bonjour.
Bonjour.
Pour nous accompagner, Héloïse Rouard, bonjour.
Bonjour.
Tilman, tu avais abordé il y a peu Pigalle la Nuit, des mêmes auteurs et que tu avais globalement apprécié. Qu'en est-il de leur nouveau bébé ?
Eh bien, pour le coup, j'ai retrouvé quelques éléments de l'univers hein, de Marc Herpoux, Hervé Admar, mais j'étais un petit peu déçu cette fois-ci. Je vais expliquer pourquoi. Ils ont réussi à se faire quand même un nom, ce duo, dans la télévision française, puisqu'on peut aussi parler des Oubliés avec Jacques Gamblin, qui avait été un de leurs premiers gros succès il y a quelques années. Puis il y a eu Signature aussi, qui avait été un gros succès critique avec Sandrine Bonner et Samy Boisgila. Et puis enfin, Pigalle la Nuit, avec notamment Jalil Lesper et Simon Abarkian. Ici, on repart plutôt vers les enquêtes policières du style Les Oubliés. Sur cette mini-série de 6 épisodes, on suivra, comme tu l'as dit, une enquête policière et un peu énigmatique, puisque, à vrai dire, il n'y a pas vraiment a priori de mort, puisque les gens étaient déjà morts alors qu'on les met dans des maisons témoins. Mais il y aura quand même un enchevêtrement d'autres histoires, d'autres intrigues qui viendront bien compléter, parfois expliquer cette situation et malheureusement aussi parfois parasiter l'enquête principale. Comme tu l'as dit, on va se retrouver dès le premier épisode plongé dans l'action puisqu'on rencontre la jeune flic Sandra Vinclair qui arrive dans une maison témoin où pour la seconde fois, on a encore donc retrouvé le cadavre d'un homme, d'une femme, d'une adolescente placée dans une situation quotidienne. Donc, dans les épisodes, on les voit manger, faire un simulacre de manger, etc., de regarder la télé. Et la police commence un peu à se poser des questions. La PJ de Lille est appelée, donc Sandra Vinclair arrive. Et sur cette première visite de la maison, il va y avoir un élément aussi particulier, c'est qu'il va y avoir la photo d'un ancien policier, donc Paul Maisonneuve, qui est trouvé dans un cadre de la maison témoin. Donc normalement, cette photo n'a strictement rien à faire là, puisque la maison n'était pas du tout habitée. Sandra va évidemment prendre contact avec Paul Maisonneuve et essayer de voir quel est le lien qui pourrait l'unir à ces étranges faits de cadavres dans les maisons témoins. Ça, c'est la première partie de l'intrigue. Deuxième partie d'intrigue, c'est justement par rapport à Paul Maisonneuve. Puisque, il semble-t-il, il y aurait un lien avec l'enquête, ils vont essayer de fouiller son passé, de voir s'il n'y a pas des gens qui lui voudraient du mal, parce qu'à la fin, notamment du premier épisode, il y a une sorte de tentative de meurtre sur lui. En fouillant son passé, ils vont essayer de voir quels sont les criminels qui auraient pu être mis en prison par sa faute, entre guillemets, parce qu'il les a arrêtés à l'époque. Et il y a une enquête qui avait fortement marqué Paul Maisonneuve. C'était l'enquête sur un serial killer de jeunes filles. Un serial killer s'appelait Gorbier, qui se peignait le visage en blanc et qui allait assassiner des jeunes filles alors qu'il avait une vie finalement tout à fait, à la base, respectable en plein jour. avec femme et enfant. Il va essayer de recreuser cette enquête, mais bon, manque de bol, normalement Gorbier est censé être en prison, et qui plus est, ils apprendront qu'il serait mort, en fait, brûlé dans sa cellule par un co-détenu avec qui il se serait battu. Bon, bah, ça serait pas Gorbier, alors qui est-ce que ça pourrait être ? L'enquête piétine. Pour faire passer le temps, bah, on nous parle de plutôt la vie privée des personnages, donc la vie privée de Sarah Vinclair. Elle est mariée, elle a une petite fille. Elle voit sa vie de couple un peu qui se délite, son mari et elle, le sexe, c'est plus trop ça. Elle apprend qu'elle est trompée. Puis on a aussi la vie familiale de Paul Maisonneuve qui est pas beaucoup plus réjouissante puisqu'il y a 3 ans, sa femme est décédée dans un accident de voiture. C'est ça finalement qui l'a amené aussi à arrêter de travailler parce qu'il a été blessé à la jambe. Donc on le voit à chaque fois avec une canne. Son fils et lui se parlent très peu. Et voilà, donc on nous présente les personnages, leur vie privée, finalement pour faire un peu passer le temps. À certains moments, on a un peu l'impression que ça vient remplir l'espace. Et puis, à nouveau, petit retournement de situation, ça ne serait pas le cadavre de Gorbier qui aurait été retrouvé dans la cellule. Et donc, Gorbier serait effectivement toujours dehors. Et ça pourrait donc être lui derrière l'histoire de maison témoin. Dernière chose, il y a encore une autre... couche à l'histoire, c'est que ces maisons témoins appartiennent toutes à une seule et même société. Et cette société-là, comme par hasard, est aux mains de personnes que Paul Maisonneuve connaît également. C'est des anciens camarades de classe, il a fait ses études avec. Il va y avoir également toute une sorte de retour vers... le passé de Paul Maisonneuve et sur ce qu'il aurait pu vivre quand il était plus jeune, donc avant même son mariage, et notamment une histoire d'amour qui s'est très mal terminée avec une femme. Alors, est-ce que Paul Maisonneuve a une implication lui-même aussi ? Là, je ne vais pas tout dévoiler. On voit le programme, il est chargé. Ça, c'est en 6 épisodes de 52 minutes.
Et pourtant, de ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, ils ont quand même rempli l'espace. Donc, j'imagine en tout cas que les derniers épisodes ont dû... se dérouler assez vite, ou en tout cas ont dû faire avancer l'intrigue de manière assez rapide.
Oui, parce qu'on se rend compte finalement que à la fin donc de la série, l'enquête principale sur ces cadavres mis dans les maisons témoins, c'était pas très compliqué. Le fin mot, il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe et on se dit ah bon, tout ça pour ça. Et toute cette histoire de Gorbier, elle a un léger lien, mais elle est surdéveloppée, donc on voit d'ailleurs ce serial killer qui revient dans sa famille, qui kidnappe même sa famille, etc., kidnappe Paul Maisonneuve. Et ça correspond à quasiment un épisode et demi. Et on se dit, mais ça n'avait strictement en fait rien à voir avec cette histoire de personnage témoin. Et on se dit, pourquoi ? Pourquoi finalement avoir rajouté ça ? C'est vrai que le programme est fort chargé, mais d'un autre côté, à certains moments, l'enquête piétine, parce que cette enquête-là, elle n'est pas tellement compliqué, le scénario aurait pu finalement se régler en un épisode ou deux, on aurait eu le fin mot et on a l'impression que toutes les autres intrigues, sous-intrigues, sont des greffons un peu pas forcément toujours bien réalisés et qui viennent là pour soit faire patienter les spectateurs, soit pour pouvoir justement
tenir 6 épisodes.
Tenir 6 épisodes également, ouais, c'est ça qui est assez gênant.
Voilà, belle caisse.
C'est celle de mon mec. Il était bon ton pain au chocolat ?
Quoi ?
Au supérieur gauche de la lèvre.
T'en veux un bout ? Ah, j'ai failli oublier, jamais du sucre.
Le moins possible.
Visiter une autre maison témoin. Ça tombe bien, tu cherches une baraque, non ?
Très drôle. Sandra Vinclair, PJ de Lille.
Fondra une nouvelle sur le terrain, elle s'occupe de l'affaire avec moi.
Ok, bienvenue dans le bordel alors. Ils sont rentrés par là. Les corps ont été déposés là cette nuit. L'homme sur son fauteuil, la femme sur le canapé et l'ado dans la cuisine. Bref, c'est comme il y a un mois dans la première baraque. La vraie petite famille idéale.
Oui.
Déjà.
Et il s'appelle comment, tu dis ?
Ah non, ça a l'air de coller, ouais.
Ouais. Ouais, salut.
Alors ?
Cimetière du Tréport, ils ont trouvé la tombe de celui-là. Ouverte. Beau cercueil, tout neuf, vide.
Et les autres ?
Pas de trace.
Tu sais comment il s'appelle ?
Non.
Bernard Weber.
Et alors ?
Eh ben, comme celui qui a écrit les fourmis, Bernard Weber.
C'est Bernard Werber, le mec des fourmis.
Werber ?
T'es sûr ?
Et le nôtre de Bernard, on sait d'où il vient ?
C'est un architecte, il est mort il y a une petite semaine, enterré il y a 2 jours.
Mort de quoi ?
Aucune idée. Bon. 2 maisons témoins, chaque fois, un homme, une femme, une ado. 3 victimes qui se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. 3 tombes, probablement 3 cimetières différents.
Tu vois ce que je vois ? C'est...
Oui, je sais qui c'est.
Dans cette série, on retrouve Thierry Lhermitte. Thierry Lhermitte qui est quand même assez loin des rôles qu'il a déjà pu endosser dans sa carrière.
C'est clair qu'on est, on est loin du splendide hein, ici pour ce rôle, mais c'est vrai que Thierry Lhermitte qui joue donc Paul Maisonneuve, on se rappelle plutôt de lui alors vers ses derniers rôles il y a quelques années, donc notamment dans les films de Guillaume Niclou, Une affaire privée, où il jouait également donc un personnage plutôt taciturne. Et bien ici, il apparaît très vieilli à l'écran, les cheveux presque blancs, il boite avec sa canne, la caméra ne lui flatte pas toujours dans ce cas-ci, puisqu'on a des plans rapprochés sur ses rides pour montrer que c'est quelqu'un qui a vécu, qui a eu des difficultés dans sa vie. Finalement, cet acteur a une carrière comme assez étonnante quand on regarde, parce qu'il est parti vraiment de la gaudriole pour arriver maintenant à des rôles finalement beaucoup plus épais, beaucoup plus profonds.
Pour prendre quelque chose d'aussi récent, on est quand même loin de la pantalonnade de TF1 Doc Martin.
Oui, là pour le coup je crois que clairement il a dû sauter sur l'occasion de se retrouver à nouveau à la télévision et dans quelque chose peut-être un peu plus consistant, un rôle un peu plus intéressant à jouer. C'est aussi un personnage qui durant toute la série va être ramené constamment à ce trauma familial, donc à cette femme qu'il a perdue dans un accident de voiture. Il s'en veut énormément par rapport à ça. Et donc, évidemment, c'est pas non plus un personnage qui va être très agréable. Donc, c'est un personnage qui va être assez dur, qui va justement s'adresser à la jeune Sandra Vinclair de manière assez paternaliste parfois et sans lui faire de cadeaux également. En plus, on va s'apercevoir que Sandra et Paul Maisonneuve ont déjà eu une interaction dans le passé, parce que quand elle était interne à la PJ de Lille, il était en fait son instructeur et les choses s'étaient très très mal passées entre eux, puisque il la considérait parce que c'était une femme flic peut-être, etc. Mais en tout cas, il était très dur avec elle et elle lui en veut toujours actuellement, se dire mais pourquoi vous aviez été aussi hard avec moi à ce moment-là.
Est-ce que c'est un duo qui fonctionne à l'écran ?
C'est un duo qui fonctionne assez bien et c'est d'ailleurs, je crois, le duo qui fonctionne le mieux. Parce que là aussi, on va voir avec les personnages qu'il y a différents types d'acteurs. C'est-à-dire qu'il y a les acteurs comme Thierry Lhermitte, Marie Dompnier qui joue le rôle de Sandra Vinclair, qui ont une tendance à jouer de manière très en retenue. Évidemment, ils n'ont pas des personnages folichons interprétés, donc c'est pas non plus les personnages qui vont commencer à faire tourner les serviettes, mais ils sont en retenue, ils sont très... J'irais dans une interprétation intériorisée, un peu à la manière des acteurs de séries policières des séries du Nord, comme Froby Delsen, de Brown, des personnages féminins, souvent d'ailleurs un peu, pas du tout sexy, en tout cas pas du tout drôle, mais très dans l'hyper-réalisme. Et ils ont cette manière de jouer. Alors,
côté Broadchurch, finalement.
Côté Broadchurch, voilà, c'est vraiment ça. Et les autres personnages, enfin les autres acteurs, en tout cas, comme par exemple Yann Amenecker, qui joue le rôle d'un des coéquipiers de Sandra Vinclair, ou alors Catherine Mouchet qui joue la chef donc de la PJ de Lille, ont tendance à jouer par contre, je dirais, d'une manière beaucoup plus désinvoltes. On voit qu'ils sont parfois en décalage. On n'a pas forcément l'impression qu'ils se sentent vraiment dans une série policière hyper réaliste. Catherine Mouchet, c'est l'actrice qui jouait le rôle de Alice dans Pigalle la nuit, la précédente production du duo Admar-Herpoux. Et moi, je l'avais trouvée justement très bonne dans cette série-là parce qu'elle avait un côté fantasque et son personnage était fantasque. Et elle jouait de cette manière-là. Ici, elle joue finalement de la même manière, mais pour une chef de la PJ qui est censée mener son équipe, pour moi, ça collait pas du tout. Et je trouvais que c'était une grosse erreur de casting.
C'est-à-dire que les acteurs secondaires sont en roue libre ?
Un peu, et notamment aussi Yann Amenek, qui est un acteur belge, ostendais, qui a d'ailleurs un accent très bizarre par rapport aux autres parce qu'on entend très fort son accent flamand. Il est malheureusement pas en plus servi par des dialogues super géniaux parce qu'il est censé être un peu la caution humoristique de la série, seulement c'est jamais drôle. Et donc il en fait des caisses, il a un drôle d'accent et parfois on a l'impression qu'il est pas du tout en raccord avec par exemple Marie Dombnier qui est un personnage beaucoup plus renfrogné et une approche beaucoup plus réaliste de cela. Le dernier gros personnage de la série, c'est celui qui est joué par Laurent Lucas, donc Gorbier, le fameux serial killer. Et alors là, on a encore finalement une autre dimension, je dirais, d'acteur, puisqu'on est dans quelque chose qui est un peu outré, un peu théâtral. C'est un personnage qui est censé être fou complètement, donc c'est un serial killer qui n'a aucune empathie, qui est juste là pour venir assouvir ses pulsions, surtout se venger aussi de sa femme qui, à l'époque, l'avait trahi quand il a été arrêté, se venger de Paul Maisonneuve, qui l'a arrêté aussi. Et alors là, on a encore l'impression finalement d'être dans une autre dimension de la série, parce que le personnage est peint en blanc, il est fou quoi. Et bon, Laurent Lucas est habitué à ces rôles-là, semble-t-il, ça fait quelques années où les rôles un peu de dérangés psychologiques, il les joue beaucoup. À nouveau, là, avec Paul Maisonneuve, enfin Thierry Lhermitte, j'ai parfois l'impression qu'ils sont pas forcément sur la même ligne de jeu non plus. Et malheureusement, ça déséquilibre effectivement pas mal de scènes durant les 6 épisodes en fait.
Où on a l'impression peut-être par moment de pas voir toujours la même série.
Oui, surtout qu'en plus, outre les jeux des acteurs, il y a également ces différentes intrigues qui ont tendance à ne pas très bien s'imbriquer les unes par rapport aux autres. Si bien que moi, à certains moments, je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter? Est-ce que cette scène-là a à voir plutôt avec cette histoire sur les maisons témoins? Est-ce que c'est plutôt à voir avec la fuite de Gorbier? Pourquoi est-ce que Sandra Winkler, à un moment donné, se fait renverser par une voiture et intimider? Est-ce que c'est par rapport aux maisons témoins? Est-ce que c'est parce que Gorbier a essayé de la tuer? Est-ce que c'est en rapport avec la maîtresse de son mari, peut-être? C'est très étrange et les noms, malheureusement, ont plus... Il y a tellement de petits personnages satellites, il y a tellement de noms qui se ressemblent qu'à certains moments, moi, je comprenais plus trop. Après, tout se recoupe, on comprend tout à la fin, mais c'est très confus et surtout, on se rend compte que les histoires, les unes avec les autres, n'ont pas vraiment toujours de lien.
Tout ça pour ça.
Tout ça pour ça, voilà.
Et Justin, la deuxième maison, c'est aussi la GECO ?
La GECO, hein. Ben, ils construisent 3 baraques sur 4 hein, dans la région.
Et le patron, c'est toujours Henri Norbert ?
Ouais. Pourquoi ? Tu le connais ?
J'ai appris pour ta femme il y a 3 ans. Je suis vraiment désolé.
Merci.
Vous étiez au collège ensemble, c'est ça?
Alors, il était comment? Paul Maisonneuve, à 14 ans. Des longs cheveux, boutons partout, Genesis au marqueur noir, le cartable. Hein?
Ouais, c'était à peu près ça. On servait une fois ou deux après. Hein.
Ouais.
Paul, je suis vraiment content que ce soit toi qui sois en charge de cette affaire de fou.
Paul Maisonneuve n'a pas la responsabilité de cette affaire.
Ah, excusez-moi.
Non, non, pas de problème.
J'ai appelé notre député ce matin quand j'ai appris tout ça. C'est terrible pour les familles, les victimes, mais la presse est en train de s'emparer du truc. Et nous, on a déjà 2 programmes qui chutent avec des ventes en dessous de 30-35%. C'est énorme pour nous.
Je comprends, oui. Voici la liste des victimes. Est-ce qu'il y a un nom qui pourrait vous dire quelque chose?
Non.
Paul, ça me fait vraiment plaisir de te revoir.
Et moi aussi.
Ah ouais, c'est chouette. Ah, putain. Mon petit polo, mon polo d'amour. Oh, pardon, excuse-moi. Je suis désolé.
C'est la joie, ça.
Et alors ? C'est l'histoire de cadavres dans les baraques, là ? Tout le monde parle que de ça, ici, là.
Bah ouais.
Mais c'est quoi, ça, déterrer des gens, déterrer des gamines ? C'est une histoire de dingue, non ?
De dingue, ouais.
T'es sur le coup ?
Oui.
Alors que c'est logique, hein, le nom que t'as.
C'est-à-dire ?
Maison neuve. Les maisons neuves.
C'est sûr. Et alors, tu bosses ici ?
Bah ouais, je me démerde, mais c'est surtout Henri, là, qui a été super avec moi, vraiment, en souvenir du bon vieux temps, il a été cool, quoi.
Bon vieux temps ?
Ouais. Hé ! Tu viens manger chez Bibi ce soir. D'accord, on fait la surprise à Corinne. Tu viens dîner, et après, on se fait la tournée des Grands-Ducs.
Ouais, ça, on verra.
Tu sais où dormir ?
Non, non, mais t'inquiète.
Eh ben, c'est bon, c'est fait. C'est bon, je veux rien entendre. Tu dors à la maison, point bas, ok ?
Si on peut perdre les personnages à travers l'histoire, il y a néanmoins un élément sans doute important dans ce type de série, comme Broadchurch ou comme The Killing, c'est le lieu où se passent ces différentes intrigues, un lieu qui marque vraiment les personnages, qui marque l'histoire. Est-ce que c'est le cas ici aussi ?
Tout à fait. Ça se passe dans la région du Tréport, donc dans le nord de la France. Moi, honnêtement, je ne connaissais pas du tout cette région. J'ai mis sur Google parce que j'étais assez interpellé de toujours entendre le Tréport. Je me disais, c'est quoi le Tréport ? Et donc, en fait, c'est une ville côtière du nord de la France. Et c'est un peu aussi également un personnage à part entière dans la série, dans le sens où ces maisons témoins sont en bord de mer également. Et il y a tout un décorum par rapport à cela. Donc, il y a le funiculaire du Tréport, il y a toute la plage, etc., qui s'étend. Et il y a aussi une sorte de lumière particulière, parce que la série se passe dans une période, semble-t-il, froide, on ne sait pas trop, semble-t-il, on dirait l'automne ou l'hiver, il fait toujours gris. Ça se voit finalement aussi sur les personnages. Donc, ils ont toujours le teint un peu terne, ils sont toujours des gros manteaux, ils n'ont pas l'air d'être super à l'aise non plus, il n'y a pas beaucoup de joie de vivre dans les rues. Et donc, ça amène également à une sorte d'ambiance, de lourdeur, d'atmosphère particulière qui imprègne réellement donc toute la série. C'est également magnifié par la manière dont Marc Herpoux et Hervé Annemar ont voulu leur série. Donc, la mise en scène est très intéressante parce qu'il y a pas mal de plans de coupe en fait qui sont pris par hélicoptère, donc on a quand même une vue globale sur toute la région, très belles images quand même.
Le Tréport, c'est un lieu magnifique avec des falaises, avec de nouveaux funiculaires, avec ce port vraiment à l'intérieur de la ville, cette mer qui rentre littéralement dans la ville, ça fait un décor fabuleux.
C'est effectivement cinématographiquement super intéressant en tout cas de voir ça parce que c'est très particulier. D'ailleurs, ils vont en profiter. Le générique se passe sur la plage. Pour toucher deux mots d'ailleurs du générique qui est vraiment joli, on voit en fait le personnage donc de Sarah Vinclair qui marche vers une sorte de cabine de plage comme intrigué sur une musique qui est vraiment sympa. J'ai pas su trouver qui étaient les interprètes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos encore sur la série vu qu'elle a été diffusée il n'y a pas très longtemps. J'ai pas trouvé qui étaient les interprètes du générique, mais la chanson est très très sympa et on la voit marcher lentement vers cette cabine de plage pour au final arriver devant et voir un loup qui en sort en fait. C'est simplement qu'elle s'approche du danger justement pour voir au maximum, parce que c'est un personnage assez intrépide aussi, qui n'a pas peur de mettre sa vie en jeu durant toute l'enquête.
Dans différentes interviews qui ont été réalisées par les réalisateurs de la série, on voit en tout cas que l'esthétique a beaucoup d'importance. On le voit déjà, en tout cas, quand on parcourt leur web concernant l'affiche, qui est très jolie et qui est très réussie aussi, selon moi, en tout cas, qui permet déjà de donner une ambiance à la série. Et pour l'esthétique, c'est vrai que dans ces interviews, ils parlent notamment de David Fincher, d'Erwin Olaf ou encore de Gregory Crutzen, qui sont des photographes que je vous invite d'ailleurs à découvrir et qui en tout cas rejoignent ces univers-là.
Mais c'est ça que j'aime bien aussi avec ce duo, hein, c'est qu'il n'y a pas que l'histoire en tant que telle, et d'ailleurs c'est souvent même peut-être un peu leur point faible, c'est leur scénario qui n'est pas mauvais en tant que tel, mais qui semble toujours être greffé de plein d'histoires différentes. C'était déjà pareil dans Pigalle la nuit, ça paraissait un peu plus fluide dans Pigalle la nuit que ça ne l'est ici, mais c'est cette manière de travailler l'image aussi, d'essayer de faire un bel objet. Pigalle la nuit était une série qui était super bien filmé, qui était vraiment bien monté. Ici, c'est pareil. À nouveau, les images sont très belles. Il y a un travail sur le générique, il y a un travail sur le son. On essaie que les acteurs également puissent être magnifiés par rapport à certaines lumières, par rapport à certains magnifiés, ou au contraire, peut-être en lady, mais toujours quelque chose d'esthétiquement intéressant. Des efforts que je trouve vraiment bien et à récompenser pour ce duo, même si leurs productions sont pas toujours parfaites, il y a un réel effort et c'est un peu rare, hein, c'est la télévision française, il faut l'avouer. Donc
cette manière de ne pas mettre en scène nécessairement des personnages, mais de mettre en scène une ville ou un lieu.
Oui, aussi, je crois qu'on revient également à ce qu'ils avaient pu faire sur Pigalle la nuit, c'est que il y a pas que l'histoire, il y a également la vie dans le temps. À un moment donné, on va clairement aussi aller vers les habitants, donc on va avoir une scène de repas par exemple de Paul Maisonneuve avec un de ses anciens amis d'enfance, et cette scène, dans l'absolu ne sert pas à grand chose, mais on aura dans ce cas-là des informations sur la vie là-bas. On verra que ils vivent dans des petites maisons, ou ce qu'ils peuvent manger, ce qui s'est passé durant les années où ils se sont pas vus. Voilà, c'est des petites infos, mais ça donne aussi une ambiance. Et c'est là-dedans où moi je trouve que le duo Anne-Marie Herpoux est le meilleur. C'est dans les petits détails, dans cette approche plutôt sociologique, plutôt finalement l'enquête policière qui, bon, ok, elle est là, mais au final, quand on regarde, elle n'était pas très intéressante. Comme en fait, dans Pigalle la nuit, l'enquête sur la disparition, elle n'était pas très intéressante. Ben ici aussi, on aura le fin mot, on se dira, ah oui, c'est vrai, ça se tient, c'est pas ça, il n'y a pas d'incohérence. Mais on aurait pu finalement avoir la réponse à la fin de l'épisode 1 ou de l'épisode 2 déjà, et on en serait venu au même point.
Est-ce qu'on est donc ici plutôt dans une série qui est une série d'ambiance?
C'est pour moi effectivement plutôt une série d'ambiance et une série malgré tout de personnages. Il y a les deux personnages principaux, il y a Paul Maisonneuve, il y a Sandra Winkler, et eux sont vraiment creusés. Alors oui, le personnage de Paul Maisonneuve, bon ben il est aussi un peu cliché puisque voilà, c'est un homme brisé, etc. Mais il est interprété de manière touchante par l'ermite et donc ça passe. Le personnage de Sandra Winkler, pareil, c'est aussi un peu cliché, c'est une femme trompée qui sent finalement un peu omnubilée par la maîtresse de son mari, qui rencontre à un moment donné la maîtresse de son mari sans dire je sais que tu es la femme de... Non, elle veut la connaître, elle veut voir qui elle est, elle essaie de mettre le même rouge à lèvres que la maîtresse, de voir les réactions de son mari. C'est pas forcément révolutionnaire non plus, mais ça permet de donner une sorte d'épaisseur au personnage et de pouvoir le voir évoluer aussi de manière différente sur 6 épisodes. C'est quand même très très court. Et là aussi, Marie Dompnier fait un chouette boulot. Et d'ailleurs, elle a reçu un prix au FIPA, qui est un festival qui récompense la télévision à Biarritz. Meilleure interprétation féminine. Et c'est pas volé, parce que franchement, elle s'en sort bien pour un de ses premiers, je dirais, grands rôles à la télévision.
On l'a bien compris, t'es pas totalement fan de la série, mais il y a quand même des bons côtés.
Au final, pour moi, c'est malgré tout une petite déception, parce que j'en attendais plus en ayant vu Pigalle la nuit. Je m'attendais justement à quelque chose qui aurait gommé les certains éléments que j'aimais pas dans Pigalle la nuit. Ben, malheureusement, ces éléments, ces qualités, ces défauts s'y retrouvent à nouveau, donc je suis un peu déçu qu'il soit pas passé à la vitesse supérieure. C'est un peu trop chargé comme série, c'est trop court, 6 épisodes, évidemment, pour raconter tout ce qu'il voulait raconter, et en même temps, d'un autre côté, sur leur idée de départ, ben, c'est beaucoup trop long. C'est des histoires qui sont pas forcément toujours développé, pas toujours très utile, mais c'est plus effectivement, comme tu disais, une série donc d'ambiance. On a une clôture de la série à la fin des 6 épisodes, donc pour moi ça nécessite pas forcément une suite. Éventuellement, si on retrouve un jour le personnage de Sandra Winkler, pourquoi pas, mais alors dans une autre intrigue éventuellement. Et vraiment pour conclure, selon moi, c'est une série qui vient entériner le fait que Hervé Annemar et Marc Herpoux, ce sont des véritables auteurs, et il y en a peu à la télévision française. J'espère que d'autres chaînes, France Télévisions, peu importe, ou Canal, même s'ils ont été un peu refroidis avec l'expérience Pigalle, leur referont confiance, parce que je suis sûr qu'à un moment donné, ils vont réussir à sortir vraiment quelque chose, peut-être pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas quelque chose de vraiment, vraiment très bon. Et je pense que je serai attentif à leur prochaine production aussi.
Un dernier mot peut-être, mais je vais poser une question qui va peut-être dévoiler l'intrigue et tu vas peut-être pas pouvoir me répondre. Le titre de la série, Les Témoins.
Alors, Les Témoins, ben, c'est en rapport déjà avec les maisons témoins, évidemment, et ces cadavres trouvés. Mais il y a une autre signification aussi, notamment plutôt en rapport avec le passé de Paul Maisonneuve et notamment l'explication finale. Parce que certaines personnes, en fait, dans le passé de Paul Maisonneuve, ont été témoins, mais également coupables de la mort de quelqu'un. Et donc, c'est surtout à cause de cela qu'il y aura cette sorte de vengeance, en tout cas, de la personne qui place les cadavres dans la maison témoin.
Ok, ben je crois que ça aura largement fait le tour de cette série. Merci Tillemont, merci Héloïse, on se retrouve très très vite pour un prochain dossier.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.